voile nue. Cette semaine, Antoine Guillot rencontre Étienne Robial. Ce soir, on fait des livres, pas des albums.
Étienne Robial, bonsoir.
Bonsoir.
Hier, nous avons évoqué vos premiers travaux graphiques, y compris votre intervention chromatique dans la ville de Bordeaux, les disques Barclay, les publications Philippe Acquis. Vous nous avez parlé en fin d'émission hier de cette rencontre, un jour, au Puce. Vous y êtes avec Florence Sestac, qui est alors votre compagne. Vous allez faire une rencontre. Vous ne savez pas encore, mais vous allez, à cause de cette rencontre, grâce à cette rencontre, participer à la grande révolution de la bande dessinée des années 70 et 80. Qui est-ce que vous rencontrez ce jour-là au Puce ?
On rencontre un garçon qui s'appelle Jean-Claude De Repère, qui est un spécialiste de science-fiction, avec qui on copine. C'est un chineur de bouquins et un érudit en science-fiction. Et en lui faisant part de nos états d'âme sur la façon dont on vivait et qu'on gagnait notre vie chez Philippe Acquis de façon un peu trop facile, il dit « Tiens, il y a une... je connais un mec qui s'appelle Robert Rock Martin qui a une librairie à Vendre dans le 15e qui s'appelle Futuropolis, qui est vaguement spécialisé dans la bande dessinée d'occasion, les vieux petits Mickey, les vieux journaux et tout ça. Ça vous intéresse pas ? » Et bah pourquoi pas ? Et on va dans le 15e voir cette librairie, 130 rue du Théâtre, et là tout se dessine clairement. On va devenir libraire. On va apprendre le métier de libraire. Dans le libraire, il y a petits commerçants, hein, c'est pas. On va pouvoir vendre toutes nos trouvailles et puis faire découvrir plein de choses. Et puis surtout, avec l'argent qu'on va gagner, on va pouvoir éditer ce qu'on a envie d'éditer, montrer, partager. Enfin, on retrouve toujours derrière les collections et tout ça, la façon de un peu mégalo de montrer ce qu'on a trouvé, de partager et toujours. Et c'est là que...
Donc le projet éditorial était là dès le départ
Non, le projet, non, l'envie éditoriale, hein, c'est-à-dire ça démangeait dans le fond de la culotte de se dire « Oh putain, ce qu'on a envie de faire, nous, c'est de faire des bouquins, faire des trucs. » Donc moi, je suis dans la presse, dans le dessin, dans l'image, la bande dessinée. Je suis pas lecteur de bande dessinée. Bon, je connais quelques grands classiques, mais c'est une bande dessinée d'auteur. Donc on est potes avec Tardy, qui était aux Arts Déco, Martin Véron. Puis comme ça, on rencontre des gens et
il faut préciser que la bande dessinée d'auteur, c'est un concept qui n'existe pas du tout.
Ça n'existe pas du tout. À l'époque, les grosses ventes... D'abord, il y a un gros monopole belge, hein. Sur la vitrine de Futuropolis, il y a un grand Tintin barré avec écrit « Not made in Belgium ». Vous voyez, déjà, là, on est encore jeune et révolté. « Not made in Belgium », c'est-à-dire toutes les mères de Belges, il n'y en a pas ici, vous n'en trouverez pas. Pareil, il y a une petite note où les astérix, tout ça, c'est, vous avez ça dans l'épicerie d'à côté. Ici, c'est que la grande bande dessinée. On dit pas BD, tout ça, hein, ou Futuropolis. Quand on dit BD, c'est pour parler de la merde qui est dite les autres. Hein, mais nous, c'est la bande dessinée. Avec capital ou sans capital, là-dessus, on est un petit peu flou. Mais c'est de cette envie éditoriale de montrer, de la bande dessinée, qu'on veut mature, c'est-à-dire adulte. Adulte, ça veut dire aussi truc de cul, parce que c'est une porte, le cul, c'est une porte qui s'entrouve et qui permet, qui facilite énormément les choses. Mais c'est pas de la bande dessinée d'adulte cul, c'est de la bande dessinée mature. 80% 90% de la production de l'époque, c'est de la bande dessinée que méchamment j'appelle infantile. C'est pour les petits, les pulapis qui racontent leurs histoires, qui sont assis à quatre pattes à la Fnac en train de bouquiner par terre, en train de baver sur les bouquins. Alors que nous, c'est pas du tout ça. Nous, on veut des vraies histoires.
Alors, c'est en allant chercher aussi dans les grands maîtres anciens que vous allez éditer votre premier livre chez Futuropolis, c'est Calvo.
Voilà, alors Calvo, c'est un bon
Edmond
exemple.
François Calvo.
Oui, qui est un grand, grand bonhomme. Pour la petite histoire, c'est le mec qui a appris à dessiner, qui avait le jeune Uderzo sur ses genoux. Et tous les jeudis après-midi, à l'époque c'était le jeudi, il venait square du Périgord, près de la porte de Montreuil. Et c'est le papy Calvo qui apprenait à Uderzo à dessiner. D'ailleurs, il nous a fait l'honneur de la préface. On a retiré le truc sur la vitrine, comme quoi les merdes genre Astérix étaient vendues au bout de la rue. Et donc on expose dans l'arrière-boutique, on expose un Italien qui s'appelle Pratt, que personne ne connaît. On chine bien sûr à la braderie de Lille, on achète des pifs, des kilos de pifs, où on arrache au cutter des pages d'un truc qui s'appelait la balade de la mer salée, qu'on glisse dans un plastique. J'avais refait une sorte de dessin de couverture et on vendait le sachet 10 balles. Il y avait un peu de Gottlieb et un peu de Mandrika et de Bretéché d'ailleurs. Voilà. Et puis très vite, on a envie d'éditer. Et au format, on a cette grande collection 30-40, c'est-à-dire le format utilisé par les dessinateurs pour faire leurs planches. Alors à l'époque, les dessinateurs travaillent en noir et blanc. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est le trait en noir et blanc et à la taille réelle. D'où ce grand bouquin incasable. On se fait maudire par tous les libraires parce qu'il n'y a pas de rayon.
Vous êtes hors de toutes les normes. C'est-à-dire le livre est grand, il est souple, il est en noir et blanc et en plus, il coûte cher. Par rapport à la norme de l'époque,
plus cher que le machin de 48 pages pelliculé, lavable avec une éponge que l'on trouve dans toutes les bonnes épiceries, certes.
Et qui lui est en couleur.
En revanche, il n'est en couleur et il ne fait que 45 pages parce qu'il y a la page de titre, la faux titre et la page de copyright, ce qui fait 48 pages, 3 fois 16, fait en une seule feuille et parce que c'est beaucoup plus économique. Nous, si notre auteur a envie de raconter son histoire sur 52 pages, on va faire 52 pages. Donc effectivement, ça coûte plus cher. En noir, certes. En revanche, nous avons 17 noirs à Futuropolis, 17 niveaux de noir. C'est-à-dire qu'on va le pigmenter un peu avec du rouge, un peu avec du bleu. Et un dessin froid, sec, comme Svart, par exemple, la ligne claire, on va le pigmenter avec un peu de rouge pour que ce soit un noir un peu plus chaud, un peu plus brun, un peu plus sépia. En revanche, un baudouin ou un golo qui est un peu ou un schlingot qui est un peu gras, on va lui mettre un peu de bleu de façon à rendre son trait et ses dégradés de traits, ses gris un peu moins sale entre guillemets. Donc noir, mais attention, pas n'importe quel noir. Et surtout avec le noir, on peut faire partager une histoire à 1000 ou 2000 personnes, ça suffit. Le point mort d'un petit bouquin en noir et blanc, un livre en noir et blanc. Alors on dit livre, hein, on dit pas album. Album, albumine, blanc, et album, c'est les Belges qui appellent ça album, puisque dans un album, c'est comme un album de cartes postales ou de timbres, on va coller des trucs dedans, ou des images de chocolat comme on le faisait avant-guerre. Nous faisons des livres, pas des albums.
Pour rassembler des épisodes qui ont été prépubliés dans les grands journaux de l'époque, les Spirou, les Tintins et autres, alors que vous proposez des histoires inédites.
Inédites, point, c'est vrai, avec nos moyens pour un public restreint, mais extrêmement de véritables lecteurs qui vont lire l'auteur. Hein, donc la notion d'auteur est importante, à tel point que sur cette collection 30-40, il n'y a que le nom d'auteur sur la couverture. Tardy, Gir, Moebius, Crumb, Schlingo, et ainsi de suite. Le titre de l'histoire est à l'intérieur. Hein, ça, pour éviter que ça se vende trop. Ce qu'on veut vendre, c'est l'auteur. Et ça, c'est important. Et surtout, c'est cette notion d'auteur, c'est-à-dire qui n'existait pas. Hein. Même, je vais voir des Franquins avec qui on entretient de bonnes relations, parce que la librairie, c'est aussi un endroit public hein, où tout le monde circule. Et à Franquin, je lui dis, mais comment vous fonctionnez, vous, vous avez des droits, alors on ne dit pas des droits d'auteur, vous avez un pourcentage, on dit. Il dit, bah non, mais nous, à Marcinelle, on est quand même bien payés, on n'a quand même pas à se plaindre. Puis alors, lui, il n'avait pas à se plaindre parce que c'était une grosse vedette. Mais il n'y a pas cette notion de, d'auteur. Et je me souviens, il m'a dit, oui, mais hey, nous, c'est un... On a créé une guilde. Alors, mes amis belges avaient créé une guilde. Alors, pour moi, la guilde, c'était un truc, la guilde du disque classique et tout ça. J'ai eu une guilde. Et ainsi de suite. C'est un petit peu plus tard, et avec Lang, ça faut aussi reconnaître sa langue, qu'on a ouvert des commissions. On a été président de commission, et Florence aussi par la suite, pour des avances d'aide à l'édition, et ainsi de suite. Pas pour faire des trucs pour les gamins, pour aider par toujours ce moyen qui est le moyen de la bande dessinée, du texte et de l'image, de raconter sa vie.
C'est la... Votre conception de l'éditeur à l'époque, c'était surtout quelqu'un qui fabrique un livre, ou vous étiez dans un dialogue, on dira, éditorial avec un auteur, en lui disant peut-être que tu devrais prendre cette direction-là, peut-être que cette page serait à revoir.
Oui, mais pas si prononcé. Enfin, avec des gens comme Edmond Baudouin, et d'ailleurs il en parle bien de toute cette période-là.
Vous étiez le seul qui voulait bien éditer Baudouin à l'époque.
C'est... Non, pareil, il avait des histoires qui n'étaient pas structurées ni faites pour que ça se vende, mais tout simplement. Hein, où le rythme de la bande, la BD traditionnelle belge, c'est toutes les deux pages, il faut qu'il y ait un rebondissement pour qu'on aille racheter le magazine. Il y avait ces histoires de pré-publication, pas publication, et tout ça, ça s'est affiné quand j'ai fait À suivre avec Casterman, en noir et blanc. Avant, on avait fait Métal hurlant, mais À suivre, c'était en noir et blanc. Et c'était des fleuves, hein, le premier truc de Tardy.
Hein.
Voilà, ça n'en finissait pas, parce que les gens, puis les auteurs, ça les intéressait, parce qu'ils étaient payés à la page, et puis Casterman, c'était une grande maison, donc ils prenaient un peu de thunes. Et Tardy et Forest, ici même, ça n'en finissait pas. Alors Tardy, il disait, tiens, on va refaire faire un tour. Tardy faisait la tronche en disant, bah oui, mais attends, tu as juste à dire, on va refaire un tour. Puis moi, j'en ai pour 10 jours, etc. Puis il faisait 50-50, moitié-moitié. Donc c'était rigolo la façon dont il gérait ça. Donc je voyais, c'était une autre façon d'aborder. Et puis alors, se poser aussi des problèmes... Où poser ça dans la librairie. Alors, avec mes grands formats, j'emmerdais le monde de façon à ce que ce soit hors les bacs. Hein, fallait surtout pas que ce soit hors les bacs. Et puis, fallait que ce soit hors les bacs. Et dans les bacs, c'était classé par ordre alphabétique héros, pas auteur. On sait pas, on s'en foutait qui était l'auteur. Et donc ça, c'est un combat qui a duré toute cette période-là, qui était formidable. C'était de faire connaître des hommes, des femmes qui avaient des histoires à raconter, des histoires drôles, des histoires tristes, des états d'âme qui n'en finissaient pas, des poètes, on a même édité des poètes en bande dessinée, ça sonnait comme des cages à lions, mais enfin, c'était pas notre propos, nous, c'était d'apporter à la bande dessinée un certain regard. Ou après, avec la collection Copyright, on s'intéressait là aux super-héros. Alors, on nous a dit, les héros, là, ils sont plein dedans. Ah, mais on a quand même fait préfacer nos bouquins avec une espèce d'appareil critique. On s'est fait appeler la Pléiade de la bande dessinée, mais on en a demandé à nos clients. Alors, l'intérêt de la librairie, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient, et il y avait un mec qui faisait du cinéma, il s'appelait Alain René, fanatique de tel ou tel...
De Lee Falk, de Mandrake, par exemple.
Est-ce que tu peux, Alain, nous faire une préface ? Oh, bah, avec grand plaisir, etc. Donc, il y avait tout cet appareil critique qui présentait le héros dans son contexte, dans l'époque, et ainsi de suite. Et de façon... c'était une première. On a fait l'intégrale de Superman avant les Américains. Et les Américains DC Comics ont dit, nous, on va faire aussi une collection. Est-ce qu'on peut... Oh, je viens de chez vous, faites-le. Et ces couillons-là, ils traduisaient du français à l'anglais. Mais je dis, mais d'où vous croyez qu'on tire ça? Si vous voulez, on va vous les donner tout de suite en anglais. Ah bon, vous les avez? Oui. Collectionneur toujours, on achetait des livres, des strips découpés dans les papiers journaux de qualité très, très, très quelconque, qu'on retouchait, qu'on clichait. On avait un vrai banc de repro, façon Jules Verne, avec des manivelles, et puis on clichait dans le noir avec une lampe rouge, on retouchait nos typons, on retouchait nos films. Il nous arrivait même parfois d'avoir des manques, on laissait du blanc. En nous excusant de ne pas avoir pu trouver tel strip de Popeye du 25 décembre, avec un doute, peut-être qu'il n'y en a pas eu, peut-être qu'il y en a eu un, ou Segard, l'auteur, a peut-être souhaité un joyeux Noël à ses lecteurs, on n'en sait rien. Et puis on l'a retrouvé, ce strip-là, par exemple, 3 ans plus tard. Donc on l'a restitué dans un Popeye volume 7, en disant, à découper, à coller dans le volume 3, page 37, voilà le... Et ça, un éditeur normalement constitué ne laisse pas des blancs dans ses pages. Au besoin, il gomme un petit peu les dates et puis personne, tout le monde y voit que du feu.
Vous étiez considéré comment dans le milieu de l'édition à cette époque? Quand vous sortez le troisième volume, si je me souviens bien, de la collection 30-40, c'est la véritable histoire du soldat inconnu de Jacques Tardy. Jacques Tardy, cette année-là, au Festival d'Angoulême, tout jeune, reçoit le prix du meilleur, alors ça devait être meilleur dessinateur, j'imagine, dans les classifications d'Angoulême, et vous, celui du meilleur éditeur. Vous êtes considéré à ce moment-là comme un trublion, comme quelqu'un qui met les pieds dans le plat?
Oui. Petite précision, à ce troisième ou deuxième festival, nous sommes que 3 stands. Nous étions dans le musée d'Angoulême, et vas-y que je te tire la clope dans le musée sous les croûtes du 17e. Les choses ont bien changé. Alors, les éditeurs, il n'y en avait pas non plus beaucoup. Et puis, Angoulême n'était pas l'Angoulême qu'il est aujourd'hui. Donc c'est un Angoulême un peu foire, qui est une copie du festival de Lucca en Italie.
Oui, le premier du genre.
Voilà, où là, moi j'y découvre Breccia, Pratt, Crépax et tous ces gens-là. Pareil, que l'on aide à faire découvrir en France, mais qui s'adresse, c'est vrai, d'un public adulte, je rajoute toujours mature, hein. Ce qui n'empêche que dans la véritable histoire du soldat inconnu, alors d'abord je l'imprime en Allemagne parce que j'avais un ami imprimeur en Allemagne. Ah, il y a une petite fellation à la page 23. Ah, et c'est bloqué en douane, et les lois, les publications, la loi de 49 sur les publications destinées à la jeunesse, monsieur le douanier, il n'est pas d'accord avec nous. Et pour lui, dès qu'il y a un dessin, une bulle avec écrit 3 conneries dans la bulle, c'est de la bande dessinée. Et la bande dessinée, c'est pour les enfants. Donc c'est bloqué en douane. Ça m'est assez difficile de dire, mais non, c'est parce que la dame, elle est de dos comme ça, mais elle est en premier plan, mais elle est pas proche du monsieur de arrière, etc., etc. Donc ça ne passe pas, et puis pareil, le libraire commence à dire « Oh là là, c'est quoi ça ? C'est pornographique ?» et ainsi de suite. Et puis voilà, le temps a fait que tout ça s'est installé calmement, et que, en l'occurrence, le voyage... La véritable histoire du soldat inconnu, c'est un chef-d'œuvre.
C'est un grand classique maintenant. La bande dessinée. Et vous venez de faire un lapsus mais... tout à fait intéressant, parce que le voyage, c'est le voyage au bout de la nuit.
Voilà.
Le voyage au bout de la nuit de Tardy, ces images sur le texte de Céline. Alors là, on va pas raconter toute l'histoire très riche de Futuropolis, mais c'est un moment où Futuropolis est rentré dans le giron de Gallimard.
Grâce au voyage, d'ailleurs, où Antoine Gallimard ne veut pas nous donner les droits de voyage au bout de la nuit. Je le comprends très bien. Je dis, bon, bah, tant pis. Puis, je suis un peu têtu. Et puis, Tardy, il y est attaché. Il veut faire son voyage. Et on rencontre même Lucette, qui est toujours de ce monde,
celle des touches,
qui voit pas le rapport,
100 ans passés,
105 je crois, qui voit pas le rapport entre Astérix et Louis. Et puis c'est grâce ou à cause de ça, je ne sais pas, que puis suite à quelques mésaventures économiques de Futuropolis, que le rapprochement a lieu et la création de la collection Futuropolis Gallimard, à savoir la parution intégrale du texte avec des images. Alors, il y a une petite gymnastique là, c'est que les images font plus de 50% de la surface imprimée. Ce qui est très important, c'est que le livre « Voyage au bout de la nuit » que l'on a édité, c'est un livre de Tardy qui a récupéré, enfin qui s'est accaparé le texte de Louis-Ferdinand Céline pour faire cet ouvrage. Et non pas, comme ça pourrait l'être ou comme ça l'a toujours été, un livre illustré par... Et donc voilà, et puis « Voyage au bout de la nuit », donc cette formule de texte intégral qu'on a développé après avec Baudouin, avec Le Clésio et avec plein de textes américains, et qui est devenu un grand succès en librairie, enfin qui était un miracle.
Un miracle, mais qui est arrivé tard finalement dans l'histoire de Futuropolis. Vous, en 1994, vous décidez d'arrêter. On verra que vous avez été très occupé aussi pendant ces années-là. On en parlera demain. Comment ça s'est passé, la fin de cette histoire?
Bah, elle est toute simple. Futuropolis, c'était pour pouvoir rendre disponibles, accessibles ces auteurs. C'est d'aller jusqu'au bout de la chaîne, et donc de sauter ou de chevaucher toutes les impasses ou toutes les difficultés de la distribution du livre, alors qu'on connaît bien et qu'on fait pas non plus les choses à moitié, donc on potasse bien, et que la meilleure solution, c'est d'avoir nos propres représentants. C'est d'avoir nos propres diffuseurs, de faire le diffuseur et le distributeur. Puis distributeur, ça veut dire des mobilettes, des 4L, puis toute la journée on fait des paquets, on livre, on facture. Alors ça, on s'expose. J'ai pas fait les écoles de commerce, donc là je me suis exposé à de graves dangers. Où j'avais une règle très simple qui était pas de découvert à la banque. Donc tous les bouquins, on les préparait. Ils étaient prêts à imprimer. Il y avait des sous, on l'imprimait. Il n'y avait pas de sous, on attendait. Le livre était fait, on attendait. J'ai tenu comme ça pendant un bout de temps. Et puis un jour, il y a le banquier qui a dit « Mais vous pouvez pas travailler sans trésorerie, etc. On va vous faire des facilités, etc. etc. » Et puis on est la BNP. Et puis ma BNP de quartier, elle dit « nous, on a une BNP... Boulevard Saint-Germain, elle est spécialisée dans l'édition, elle travaille avec Monsieur Gallimard, etc. Et puis, c'est une autre histoire, c'est la façon dont Gallimard est arrivé, ce qui était aussi très, très flatteur et très, enfin, les méthodes de diffusion, de distribution n'étaient pas du tout les mêmes. Et puis Futuropolis, à une époque, c'était 29 personnes.
Pour des livres qui se vendaient à combien d'exemplaires, rappelez-vous ?
Oh, très très peu, mais encore une fois, la grande tombola, la chose merveilleuse de l'édition, c'est que même en étant extrêmement prudent et en gérant son point mort et ses coefficients, on peut arriver à faire quand même pas mal de bouquins, mais on peut se prendre des gamelles et perdre ce qu'a rapporté 10 bouquins, on le perd en un. En revanche, il y a eu des miracles. On a édité La Bête est morte de Calvo, qui a été un énorme succès. On a vendu 50 ou 60 000 exemplaires, qui est énorme. Ou Voyage au bout de la nuit, qui a fait 240 000. Et c'était un bouquin à 200 francs, c'est-à-dire à 30 euros. C'était pas donné. Et ça, c'est la grande tombola de l'édition. C'est qu'il y a un côté joueur, moi qui me plaisait bien. Et ainsi de suite. Il y avait aussi le Futuropolis Collection X, pas comme on le pense, mais qui était le faire découvrir les auteurs. Et ça, on a fait découvrir un paquet de jeunes auteurs dans des petits bouquins modestes qu'on vendait 25 ou 30 balles. à peine 10 euros aujourd'hui, et dans lequel on a aujourd'hui des gens qui sont... j'ai croisé un garçon le jour qui s'appelait Rabaté.
Pascal Rabaté.
Voilà, qui me dit, j'ai dit bonjour, ça va, bonjour monsieur. Il me dit, tu te souviens pas de moi, c'est chez toi que j'ai édité mon... C'est chez vous que j'ai édité mon premier livre et il sortait un film là. Donc c'est assez rigolo de voir. Et puis on a eu des parrains. Enfin, Tardy a été un grand parrain des collections. Willem qui a initié justement les collections X et tout ça. La fin de Futuropolis, elle est une grande banalité. C'est que c'était une histoire que j'avais construite avec Florence Estac, qui était mon amoureuse. On a fait un enfant qui s'appelle Jules, et puis on s'est séparés. Et du coup, le Futuropolis n'avait plus la même saveur. Et le plus simple, c'était d'arrêter. Et comme Voyage au bout de la nuit avait très bien marché, côté BNP Saint-Germain, c'était dans du vert et pas dans du rouge. J'ai pris rendez-vous avec Antoine et je lui ai dit j'arrête. Donc il a été très très surpris, il a pas compris. Bon, parallèlement à ça, j'avais d'autres aventures. Et puis dans les librairies, dans l'édition, on a rencontré aussi plein de gens, dont je parlais d'Alain René, mais il y a eu Fellini, il y a eu Mastroianni, il y a eu Eddie Mitchell, qui était aussi un collectionneur, qui nous, avec son copain Gérard Jourduy, faisait les films du vendredi, la dernière séance, dès qu'il pouvait placer un petit mot gentil pour dire que nos bouquins est formidable. Dans tous ces films, dans le décor, il disait « Tiens, envoie-moi une collection complète de copyright ». Et il y avait des plans serrés sur la collection. Et puis un certain Pierre Lescure, qui était un pote qui adorait ce que je faisais, et puis qui m'a dit, tiens, toi qui la ramènes tout le temps, c'est 82, oui, 82, il y a des groupes qui m'a nommé directeur de l'unité de programme, divertissement et variété. Bon, bah très bien, et je vais faire une émission qui s'appelle « Les enfants du rock ». Ah bon, bah très bien. J'ai dit, beaucoup, et j'aimerais bien que tu me fasses mon générique. J'ai dit, mais je suis ni rocker, je suis plutôt jazzy, je suis plutôt blue note. J'aimerais bien que tu me fasses mon générique, mais je dis, je suis ni rocker, et puis j'ai pas la télé. Et il m'a dit, justement.
Eh bien, justement, de tout ça, Étienne Robial, on en parlera demain, comment les enfants du rock vont ouvrir un nouveau métier que vous allez inventer. Alors demain, nous ne serons pas dans votre maison, nous allons aller à quelques rues d'ici.
À On Off,
votre studio de création graphique. Merci beaucoup, Étienne Robial.
Bonsoir, et à demain.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Antoine Guillot avec Étienne Robial. À voix nue, réalisation François Connac, prise de son Laurent Lucas, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.